serait beaucoup mieux accompagné. Et puis, et on connaît aussi que même dans la fin de vie, l'extrême fin de vie que j'ai accompagné avec les malades du sida, il y a des hauts et des bas, même dans les dernières heures. Donc, s'il y a toujours des hauts et des bas, la personne humaine est complexe et la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est lui prendre la main, lui tenir la main au moment où c'est ça la plus belle chose, au moment où elle va
mais
partir.
L'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. L'un n'exclut pas
tout
l'autre.
Tout à fait, non, mais tout à fait. Mais moi je suis plutôt à proposer ça et à dire merci déjà à tous ceux qui font le maximum pour qu'on vive quelque
mais
chose de fraternel.
Mais la parole de celui qui est au centre, moi, ce qu'on peut contester, toujours si vous me permettez, bien évidemment, c'est ce qu'on peut contester dans ce que vous dites, c'est de ne pas entendre la parole de celui qui demande. C'est ça. C'est ça que je peux contester. C'est-à-dire que, alors moi, je suis bien incapable de savoir comment je réagirais. Peut-être que je voudrais prolonger, peut-être que je trouverais dans cette séquence-là une séquence de réconfort, que sais-je, d'amour, que j'ignore à l'instant, et peut-être que je voudrais que la mort ne soit que naturelle, mais au contraire, peut-être ne serais-je pas dans cet état d'esprit. Peut-être que ma souffrance serait telle que je voudrais qu'on l'abrège.
Mais quand je parle de la complexité de la personne, vous voyez, je pense à ces cinq dont je vous ai parlé. Hein, à un moment, ils m'ont dit « je veux arrêter ». Je veux arrêter.
J'entends ce que vous dites
réponse,
aussi.
La réponse a été la fraternité, vraiment, et ils ont renoncé à leur demande. Vous voyez que ce choix est définitif. Et donc, on leur laisse... Enfin, dans cette évolution, il y a aussi la prise en compte de cette complexité. Et j'ai peur que la loi, on voit dans certains pays qui ont ouvert ce type de loi, on va jusqu'à proposer un suicide assisté aux personnes dépressives.
Refuser... comment dire, la possibilité de choisir pour celui qui va mourir dans 3 jours et d'argumenter que plus tard on pourra ouvrir ça à d'autres sujets, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. Maintenant, j'entends ce que vous dites.
Il y a un verrou qui s'ouvre, c'est sûr, il y a quelque chose qui...
Bon, Christine veut réagir.
Je vais réagir parce que j'ai eu deux cas.
Je vous en prie, Monseigneur, mais Christine réagit et puis après on vous dit au revoir.
Oui, donc j'ai le cas aussi de ma maman qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je savais qu'elle ne voulait pas qu'on l'interrompe sa vie. Je l'ai respectée.
J'entends. Vous avez respecté dans deux cas différents. Votre père voulait qu'on l'abrège, votre mère non, et vous avez respecté. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je remercie Monseigneur Gobillard.
C'est des sujets très très graves.
Bien sûr, vous avez parfaitement raison.
C'est très intime. Je respecte vraiment toute cette souffrance. Et je voudrais vraiment vous dire merci et bravo pour cette émission parce que ça donne la parole à chacun. Donc merci.
Merci. Et vous êtes évêque de Digne. Et ça serait bien, évidemment, quand vous êtes à Paris, que vous veniez nous voir. Ou sur le plateau de CNews ou dans le studio d'Europe 1. Il est 11h25, merci. Je remercie Christine, bien évidemment.
Merci Pascal, parce que vous avez une émission en or.
Eh bien, parce que nous avons une famille en or, une famille Géraldine, que vous n'aviez pas saluée, je le rappelle tout à l'heure, monsieur Boubouk.
Oui, je suis désolé, Géraldine.
Vous n'aviez pas dit bonjour, Géraldine, qui a remis ses lunettes.
C'est bientôt son anniversaire.
Ses célèbres lunettes.
Pascal, c'est bientôt son anniversaire, c'est demain.
C'est demain.
Ah oui,
mais je prends un an de plus demain.
Mais non.
D'où les lunettes.
Et demain, j'espère qu'on offrira un vrai cadeau demain.
On a prévu un petit quelque chose, oui. Qui va lui plaire.
Une paire de lunettes.
Pour l'heure de l'apéro.
Oui, c'est une bonne idée. Une nouvelle paire de lunettes.
Ça seront des verres, mais pas ceux des lunettes. Hein.
Ah oui.
Monsieur Fabrice Lafitte.
Europe 1, Pascal Pro.
Monsieur Olivier Guénèque est dans ce studio, peut-être pour nous donner quelques...
Ah non, pas
sur Facebook.
Pour une fois, je n'ai pas de message.
D'accord. Voilà. Un adolescent de 15 ans tué à l'arme blanche à Romans-sur-Isère. Cédric le disait il y a un instant, les faits sont survenus dans le quartier de la Monnaie. Le quartier s'était déjà retrouvé sous les feux de l'actualité ces derniers mois après le meurtre de Thomas. Je vous propose d'écouter Marie-Hélène Toraval, que vous connaissez. Elle est la maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Et elle était ce matin sur CNews.
Il y a une croissance de la violence, il y a une intensité de cette violence. La montée de la violence, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus prégnante, on le constate. Les faits divers qui se sont opérés sur ces derniers jours sur le territoire national en attestent. Je dois dire aujourd'hui, il me semble qu'il y a 4 mois, j'ai dit notamment dans le cadre du drame de Crépol qu'il ne fallait pas considérer cela comme un fait divers, mais comme un fait de société. Je vois que mes propos, malheureusement, eh bien, se traduisent sur le constat que, au travers du constat que l'on peut faire sur cette évolution de la violence.
Pardonnez-moi, nous sommes avec Franck, je pense, beaucoup. Bonjour Franck.
Bonjour Pascal.
D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre et sur cette société qui est plus violente peut-être qu'elle ne l'était?
Bien sûr, c'est pas la première fois que j'interviens sur votre antenne. Moi, vous savez, je suis un ancien flic, donc en région parisienne. Donc ce qui se passe actuellement, sans aucune prétention, j'avais l'impression de savoir ce qu'allait se passer. Parce qu'en fait, si vous voulez, faut pas oublier que la justice, pour moi, les premiers coupables, c'est la justice. D'accord, ce ne sont pas les forces de l'ordre. La justice ne donne pas les moyens et la justice ne fait plus peur. Aujourd'hui, je vous parle en 2024, la justice française ne fait plus peur à qui que ce soit. Que je parle aux délinquants, que je parle aux voleurs, que je parle aux violeurs, que je parle à n'importe qui, la justice ne fait plus peur. Pourquoi ? Parce que les peines qui sont données, quand il y en a, tout simplement ne font plus peur. Aujourd'hui, voilà, il y a des coups de couteau. Aujourd'hui, c'est devenu quand même la première agression en France, c'est le coup de couteau. C'est quand même.
J'entends ce que vous dites, mais je n'imagine pas que quelqu'un qui tue en l'espèce avec un coup de couteau soit en liberté dans 2 ans.
Ah, moi, je vous le garantis que si. Ah,
non,
je vous garantis
non,
que si,
parce pas après. S'il est reconnu Pascal, coupable et que Pascal, il est accusé de meurtre, il sera pas après un meurtre, il sera pas dehors dans 2 ans. Il sera pas dehors non plus dans 5 ans.
Alors, j'espère aussi, parce que je vous explique, avec les remises de peine, avec tout ce qui se passe en prison, c'est-à-dire parce que ce n'est pas des prisons, vous le savez aussi bien que moi, que c'est un peu le Club Med. Donc, si vous
ne
voulez,
dites pas ça non plus, parce que c'est pas vrai. Ces discussions.
Moi, vous savez, j'ai apporté des perfins. Lorsqu'on faisait des.
C'est pas le Club Med, la prison.
Pascal, moi, sincèrement, quand j'ai emmené des personnes, on sortait du tribunal, qui étaient. Donc, on les emmenait avec mandat de dépôt, on les emmenait. Au sein des maisons d'arrêt, c'est simple, j'en ai vu deux des maisons d'arrêt, Fleury-Mérogis et Fresnes. Mais sincèrement, quand vous voyez, ça se voit aujourd'hui. Il y a des téléphones, ils ont ce qu'ils veulent. Vous avez vu, c'est des consoles de jeux, c'est des activités en dehors de la prison, c'est du karting, on en a entendu parler.
C'est arrivé une fois, mais en fait, les difficultés de ces sujets, c'est de ne pas être caricatural. Voilà, c'est ça la difficulté. Si vous dites la prison, c'est le Club Med, évidemment que c'est caricatural. Moi, d'abord, je pense aux gens du Club Med qui nous écoutent, les patrons du Club Med, qui doivent se dire nous, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette discussion. Voilà, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette discussion.
Mais
c'est vrai, mais bon, c'est une image, le Club Med.
Il y a beaucoup de Français qui sont
d'accord avec moi. Oui, mais ça ne veut rien dire, et ça veut rien dire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette violence qui se banalise dans nos villes et aujourd'hui dans toutes les communes. Ça veut dire que Romans-sur-Isère, c'est pas non plus une énorme ville, vous voyez. Et regardez ce qui se passe dans les petites communes.
Mais je suis à 100% d'accord avec vous. Mais j'essaye de ne pas être caricatural et surtout, et c'est ça la difficulté, d'imaginer des solutions. Et comme je ne les vois pas beaucoup, ces solutions, sauf à prendre
Tant que la justice ne frappera pas.
Oui, sauf à prendre effectivement
je vous
des.
Je garantis que ça n'arrivera pas.
Mais c'est possible que là, vous ayez raison, il faut être radical.
Mais bien sûr, moi, c'est simple, c'est tolérance zéro.
Oui, mais voilà. Moi, je vous rejoins. Je vous rejoins.
C'est 10 ans de prison, mais quand je vous dis 10 ans, il n'y a pas de remise de peine, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'activité.
Je vous rejoins. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un couteau sur lui, il n'a, à 15 ans, 16 ans, il n'a pas à avoir un couteau. Donc je pense que cette affaire de couteau train de prendre une importance folle. Les attaques à l'arme blanche et au couteau, on s'aperçoit que toute une génération de jeunes gens possède des couteaux, et effectivement, ça fait peur. C'est-à-dire que ça fait peur parce que tu te dis, t'es dans un métro, t'es sur un trottoir, il peut t'arriver n'importe quoi.
Donc il faut
commencer à attaquer, bien sûr, vous avez raison.
Un simple coup de klaxon, une refus de priorité, n'importe
bien
quoi,
sûr, vous avez
il
raison.
Suffit que le ton monte et vous prenez un coup de couteau.
Ah, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui, comme moi, je pense, ne s'embarquent jamais dans ce type d'affaires. qui ont tout simplement un peu peur, quoi, qui sont prudents, disons-le. Hein, ben voilà. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, comme dit l'autre.
Exactement, on préfère l'écraser que de provoquer ou de rentrer dans un jeu, etc.
Oui, à raison. Moi, je n'ai pas, pas envie de mourir pour rien, pour un refus de priorité, pardonnez-moi, comme tout le monde.
Et donc, du coup, c'est vrai que moi, pour moi, la justice est coupable. Parce qu'elle
alors, il
n'y
a pas que la justice, c'est un ensemble. Bon, vous êtes où, vous, Franck? Vous êtes dans quelle région de France?
À Antony, dans le 92.
Bon, est-ce que vous pouvez... Alors, vous êtes chauffeur routier ou chauffeur de personnes?
Je suis transport de personnes.
Transport de personnes. Est-ce que vous pouvez me rapporter un incident que vous avez eu, par exemple, de ce type d'incivilité ou de dispute depuis le 1er janvier?
Mais ça arrive très fréquemment quand je vais récupérer des clients, par exemple, à la gare du Nord. Une des fameuses gares parisiennes qui est fabuleuse. Et en plus... Notamment la journée, bon ça va parce qu'il y a une présence policière importante, il y a du monde, il y a des commerces qui sont ouverts. Allez récupérer des clients, moi j'en parle souvent avec mes collègues ou des taxis, allez faire une récupération Gare du Nord à 22h, 23h. Vous allez voir que, et en plus avec ça, avec les JO qui arrivent, ça va être magnifique.
Mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi précisément, dites-moi précisément.
Alors moi j'ai vu une bagarre devant moi, mais j'ai vu une personne se faire planter devant mes yeux, c'est-à-dire que...
Pourquoi ?
Je me suis... Mais, alors, il parlait tamoul, vous voyez ? Donc, j'ai eu juste le temps de faire mon... Je me suis baissé pour faire mon lacet, Pascal. Sincèrement. Le temps que je lève la tête, j'ai vu que ça haussait le ton. Je me suis dit, bon, ils se prennent la tête, ça arrive. Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter. Il avait un t-shirt blanc. Il lui a mis un coup de couteau. Ils étaient nombreux comme pas possible. Ils sont partis en courant. J'ai pris mon téléphone, sauf qu'il y avait une personne sur lequel qui était en ligne avec les pompiers déjà. Mais ça s'est passé en une fraction de seconde. Et je me suis dit, mais je suis à peine sorti de la voiture. J'ai fait mon lacet. Il y a une personne qui vient de se faire planter Gare du Nord en plein Paris. Mais c'est quand même incroyable. Alors, quand vous me parlez de ce qui se passe sur Romans-sur-Isère, mais ça, regardez à Viry-Châtillon. Vous voyez, on en revient. Au final, c'est ce qui se passe exactement sur tout le territoire français. Et c'est toujours pareil, c'est les coups de couteau, les agressions. Et moi, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est la justice des forces de l'ordre. Je suis un ancien flic, je ne peux pas être contre mes collègues. Voilà. Mais aujourd'hui, la justice, elle ne fait plus peur à qui que ce soit. Les peines ne font pas peur. S'il y en a.
Bon, bah écoutez, merci Franck de ce témoignage. Et notre camarade Olivier Guénec souhaitait réagir.
Des messages sur nos réseaux sociaux, Pascal. C'est bon pour vous, je peux y aller?
Oui, je vous en prie.
Merci, vous êtes trop sympa.
Ça bascule.
Oui,
dans 20 minutes.
À midi.
Bah, il est 11h40.
Ah, ça bascule à midi pile.
Ah, midi pile, ça bascule.
Ah, mais avant, ça n'a pas basculé?
Non.
Bah, pas vraiment, mais le mercredi est une journée de bascule, mais l'heure précise, c'est midi, par définition.
Bon, on attend midi pour basculer, alors allez, c'est parti. Oui. Clotilde...
On va faire un jingle, ça bascule.
Vous pensez que c'est une bonne idée?
Je pense qu'on peut imposer ce petit slogan dans la France professionnelle.
On a imposé ces lundis, on peut imposer la bascule. Hein,
exactement.
Sûr. Clotilde nous écrit, on se rend compte qu'aujourd'hui, les coups de couteau sont devenus la normalité. Pour Yves, cette jeunesse se sent intouchable. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, rien ne leur arrivera. On termine avec Nathalie. En tant que maman, j'ai vraiment peur pour mon fils. Oui, dites-moi.
On me fait remarquer, en tout cas ce sont des auditeurs, que vous auriez une chemise identique à celle que vous portiez hier ou avant-hier.
Quoi
c'est
qui,
bien
qui
ça.
Qui dit ça?
Ben, on me dit cela.
Je vois Laurent Tessier vous dire ça dans l'oreille.
Non, c'est pas du tout.
Non, j'observe.
Mais vous savez,
Pascal,
je l'ai acheté hier, Pascal, cette chemise. Elle est belle, non?
Ah oui.
Il y a encore les épingles dessus.
Effectivement.
Non, mais je suis un homme à chemise maintenant. C'est décidé. Hop, c'est fini.
Tirez votre épingle du jeu. Il est 11h41.
Nous marquons une pause.
Est-ce que nous, gars, on va peut-être changer de sujet
pour tout vous dire. Alors, il y a des informations quand même qui sont depuis midi, depuis 11h plus exactement, que je voulais vous donner. Une information, c'est le recadrage de magistrats par Éric Dupond-Moretti est de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est une alerte AFP qui est tombée il y a quelques minutes et c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a communiqué de cette manière-là. Et puis également, dans la fonction publique, les préavis de grève pour les Jeux Olympiques sont déposés, annonce la CGT. Eh bien, nous allons parler de la fonction publique, mais d'une manière différente. Faut-il en finir avec l'emploi à vie dans la fonction publique? Le ministre Stanislas Guérini veut qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique.
Je pense qu'il n'y avait que ça qui nous manquait, si vous voulez, pour mettre... Avant les JO, je trouve que c'est vraiment une bonne idée qu'il a eu, Monsieur Guérini. Il n'a que des bonnes idées, Monsieur Guérini. Le message est clair. L'emploi à vie n'est pas un totem.
Et vous savez qui va intervenir ?
Non.
Annick, que l'on connaît, qui en a parlé oui, des fonctionnaires. Bah oui. Oui, oui.
Oh là là.
Elle a une revanche à prendre.
La célèbre Annick, en plus, elle doit avoir ses petits-enfants avec elle.
Oui, c'est ça, c'est
Ils
ça.
Ils se sont levés à 6h22 ce matin. Tout le monde était debout devant son bol de chocolat à 6h43.
À Fontainebleau.
Et à 7h07, on a fait un footing dans les bois.
Et la dictée, n'oubliez pas.
Et la dictée
pas.
À 8h02.
Europe 1, Pascal Praud.
Faut-il en finir avec l'emploi à vie dans la fonction publique ? Le ministre Stanislas Guérini veut qu'on lève le tabou du licenciement. Je vous propose peut-être de l'écouter. Il était sur France Inter ce matin.
Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la fonction publique, quand, par exemple, on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique. Et je ne souhaite pas changer ça. Je pense que c'est statutairement quelque chose qui est très important et qui distingue le public du privé. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle existe déjà.
Il y a cet outil-là, il est très mal défini et il est surtout extrêmement peu appliqué. Je vais vous donner un chiffre. Il y a dans l'État 2,2 millions d'agents publics. L'année dernière, ce sont des chiffres qui sont à peu près les mêmes depuis 10 ans, il y a eu 13 licenciements pour insuffisance professionnelle.
C'est vrai que c'est pas beaucoup manifestement par rapport au privé, mais je m'amuse parce que bien évidemment, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de proposer ce genre de loi à 4 mois des Jeux Olympiques. Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, interrogée pour Europe 1 par Laurent Tessier. Écoutons-la.
La vision qu'on a, nous, de l'emploi à vie dans le secteur public, elle est totalement obsolète par rapport aux autres pays d'Europe. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des pays, maintenant, l'essentiel, c'est de la contractualisation avec les agents. C'est-à-dire que les agents qui travaillent dans les administrations publiques, ailleurs en Europe, ils sont majoritairement des personnels embauchés sous contrat, comme dans le privé. Alors, c'est pas toujours exactement pareil que dans le privé, mais finalement, on est allé partout vers la contractualisation et le statut tel qu'on le conçoit en France avec cette idée que finalement, d'une certaine manière, l'agent serait propriétaire de son emploi, eh bien, en fait, ça n'existe plus ailleurs.
Bon, ce que dit Madame Verdier-Molinier, en revanche, s'entend cette fois-ci. Christian Grolier est avec nous, secrétaire général FO Fonction Publique. C'est vrai, je souligne souvent les différences qu'il y a entre le privé et le public. Oui. Et croyez-moi, ça peut de temps en temps m'agacer. Par exemple, la retraite du public n'est pas calculée de la même manière que la retraite du privé. C'est plus avantageux pour le public. De la même manière, le délai de carence, pour le privé, on en est à 5 ou 6 jours de délai de carence imaginé. Pour le public, c'est un seul journée de carence. Lorsqu'on a fait une réforme des retraites, on s'aperçoit que le privé, la retraite du privé est équilibrée, elle est même excédentaire. Le problème, c'est la retraite du public, mais on n'a pas touché aux avantages bien souvent de la retraite du public, et notamment sur le calcul. Bon, et c'est vrai aussi, disons-le, qu'il y a un avantage avec cet emploi à vie, alors qu'au fond, il n'y a pas, c'est ce que dit Madame Verdier-Molinier, au nom de quoi y aurait-il un emploi à vie pour les fonctionnaires ?
Alors, si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a affaire à des intervenants qui ne savent pas de quoi ils parlent, et le plus regrettable, c'est à commencer par le ministre. Parce que le fondement du statut général qu'il évoque, 1946, repris en 1983, c'est que le statut, ce n'est pas la garantie de l'emploi. Le statut, c'est la garantie de la carrière. C'est-à-dire que comme l'agent public n'a pas le droit de travailler dans le privé pour améliorer ses fins de mois, le gouvernement lui garantit un déroulement de carrière. Après, je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas le risque du licenciement économique dans les entreprises. Et tant mieux, nous ne sommes pas une entreprise, nous n'avons pas à être productifs ou rentables. Nous rendons des services aux citoyens.
Donc déjà, on parle pas de la bonne chose. Moi, j'aimerais que vous soyez parfois rentable et productif. C'est drôle ce que vous dites. Si vous avez quand même c'est marrant votre phrase. Tout le monde doit être productif. Rentable, c'est encore autre chose. Oui. Mais vous devez être quand même productif. Vous dites, j'ai pas, je dois pas être productif. Non, mais c'est
productif,
formidable.
Productif dans le sens de développer un produit. Nous, on rend un service.
Bah, oui, mais productif, c'est pas développer un produit, c'est être plus efficace, plus rapide, plus que sais-je. Ça, vous avez quand même ce devoir-là.
Mais bien sûr.
Bon, et rentable, alors c'est encore autre chose. Rentable, oui. Vous avez raison, je vous demande pas d'être rentable. Un service public n'a pas à être rentable. Mais productif, oui. Productif, mais, oui.
Productif, efficace, on peut employer tous les termes que l'on veut.
Ah oui, mais
sauf
vous
que
dites,
ça n'a rien à voir avec la garantie de l'emploi à vie, comme le présent ministre.
Non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ce que veut dire le ministre, c'est que personne n'est responsable de son job et que si celui, par exemple, on peut évaluer pour un fonctionnaire, on peut évaluer sa qualité de travail avec les mêmes critères que dans le privé. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est ça que je veux vous dire. Et
oui,
dans le public,
ça existe.
Il y a eu 13 licenciements sur 2,5 millions de fonctionnaires l'année dernière. Dans le privé, il y en a un peu plus.
Alors, d'abord, il y a plusieurs sanctions disciplinaires. Évidemment, si le rêve du ministre, c'est de licencier les fonctionnaires, il faut qu'il en licencie plus.
Non, sanctionner ceux qui ne sont pas performants, peut-être.
Mais vous savez, il y a le licenciement pour faute, qui est différent du licenciement pour insuffisance professionnelle qu'évoque le ministre. Mais après, les sanctions disciplinaires, il y en a multiples. Ça va bien sûr de la plus légère à l'avertissement, mais ça va aussi sur des suspensions d'activité non payées pendant plusieurs mois. Donc, c'est sûr que si on focalise sur le fait qu'il faut absolument licencier, il y a peut-être des alternatives avant et faire en sorte que des agents qui peut-être ont des difficultés et qui ont des sanctions disciplinaires plus légères soient formés, améliorés pour continuer de travailler correctement. Moi, je suis surpris qu'un ministre qui, hier matin, veut rendre la fonction publique plus attractive en disant « je vous présente un projet de loi dans ce sens », trouve rien de plus intelligent l'après-midi pour donner de l'attractivité à l'emploi public, de dire « je veux licencier davantage de fonctionnaires ». Et il oublie une chose, c'est que ce gouvernement sous Macron a fait en 2019 une loi qui s'appelle la loi de transformation de la fonction publique, qui dit « on ne veut plus recruter des fonctionnaires, on recrute des contractuels ». Où est le problème?
Bon, on va interroger, je crois que nous sommes avec Annick qui est là, c'est bien cela?
On la prendra juste après-midi, Pascal.
Juste après-midi. Bon,
voilà, après donc, flash. Quand ça aura basculé,
donc,
bien sûr.
Effectivement, bon, nous pouvons continuer. Non mais, moi j'ai le sentiment, c'est vrai par exemple pour les enseignants, que s'il y avait une sélection plus grande et une exigence plus grande dans le recrutement, avec effectivement des critères sans doute plus haut de gamme, tu attirerais effectivement d'autres gens, ça serait sans doute plus difficile, mais tu pourrais aussi les payer plus. C'est-à-dire que tu pourrais avoir moins d'enseignants et les payer plus, et ce serait un système de compétitivité qui peut être intéressant, comme dans le privé, c'est ça que je veux dire.
Oui. Et nous, on n'est pas du tout fermés à ça. On dit depuis des années que, par exemple, si on compare aujourd'hui et à 50 ans en arrière, on a quasiment 85% d'une cohorte de jeunes qui a le bac. C'était pas le cas avant.
Mais qui ne mérite pas de l'avoir, peut-être.
Ça, c'est votre a priori, votre postulat. Mais en tout cas, c'est la réalité.
Mais je suis d'accord avec vous, mais vous savez bien, des gens qui ont le bac, ils n'auraient pas eu le certificat d'études parfois il y a 50 ans.
Oui, mais vous savez, on a parfois des gens qui sont énarques, et quand on voit comment ils gèrent les services... Peut-être que ce serait mieux géré par quelqu'un qui a le bac. Bon, on peut débattre.
Et là, je ne peux pas vous démentir.
Vous savez qu'on serait d'accord, en force.
Et là, je ne peux pas vous démentir. Non, mais,
bon, ceci étant dit, on a une population qui est surdiplômée. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a trois catégories dans la fonction publique ABC, le cadre A et le C ouvrier, on va dire. Et tout le monde est surdiplômé. La catégorie C, les agents en bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 8. Donc, il faut qu'on adapte ça. Et peut-être qu'effectivement, si on relève le niveau de formation, le niveau de diplôme et qu'on met en adéquation les rémunérations, on aura plus.
Bon, aujourd'hui, un jeune homme de 22 ou 23 ans ou 24 ans qui rentre dans la fonction publique, quel est son statut?
Alors, il y a deux cas de figure. Soit il est dans une mission où il faut une formation, une certification, style la police, et donc il est fonctionnaire, soit il est contractuel, donc il a un contrat de 3 ans, renouvelable une fois.
Et par exemple, dans une grande administration, il est contractuel ou il est fonction
Les deux sont possibles.
Et alors, voilà. Ça dépend de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est contractuel et qu'est-ce qui fait qu'il est fonctionnaire?
Ce qui joue le plus, c'est le statut particulier du corps dans lequel il rentre. Donc, s'il faut une formation comme la police, c'est de la fonctionnalisation.
Si c'est un métier. Mais la poste, par exemple?
Alors, la poste, il n'y a plus de fonctionnaires recrutés depuis des années, puisqu'il n'y a plus que des salariés du secteur privé à la poste.
D'accord.
Voilà. Et il doit rester à peu près 60 000 fonctionnaires entre la poste et Orange.
Dans l'enseignement, par exemple, qui est de la fonction publique?
Aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires majoritairement, mais on commence à trouver des contractuels.
Ben écoutez, on va échanger avec...
les auditeurs, et notamment Annick,
qui va pouvoir
Annick
donner
le phénomène. J'espère que vous êtes prêts, en forme.
Christian Grolier, qui est secrétaire général FO Fonction Publique, il y a combien aujourd'hui de membres qui travaillent dans la fonction publique en France?
Alors, si vous prenez toute la fonction publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, hospitalières, il y a 5,7 millions d'agents. Et sur ces 5,7 millions d'agences, qui représentent 20% de l'emploi salarié du pays, vous avez 3 850 000 fonctionnaires à statut.
D'accord. Et quand on travaille dans une collectivité territoriale, on a quel statut ?
Alors, pareil que l'État. On est soit fonctionnaire, notamment pour les plus anciens, mmh. et contractuel pour les plus récents.
Mmh. D'accord. On est avec Annick. Annick, dites le phénomène.
Bonjour Pascal.
Annick, dites le phénomène. Bon, alors, monsieur, voilà.
Pascal, j'ai tout fait ce que vous avez dit ce matin, j'ai tout fait.
Ah ben, je vous en doute bien.
Vous êtes levé
à quelle heure?
Non, il était que 7h. J'ai pressé les oranges et ça, vous ne l'avez pas précisé, ça.
Bon, et là, vous avez les petits enfants, j'imagine, parce que c'est les...
Ah ben oui, alors on fait des maths avec papy, là, en ce moment.
Papy doit être content. Il s'est levé à quelle heure, papy?
Oh ben, comme d'habitude.
C'est-à-dire 9h, 9h30?
Absolument.
Bah, il retarde, évidemment, il sait ce qui lui apparaît, c'est ce qui l'attend, donc il retarde le lever.
Il repousse
l'échéance. Bon, cher Annick, bon, d'abord, oui. Monsieur Grolier est d'abord très courtois, très sympathique, et je demande de le ménager. Il est secrétaire général FO Fonction Publique, donc soyez gentil
Je
avec
ménager,
lui.
Mais je vais dire ce que je pense quand même, sinon oui. C'est pas la peine.
Vous m'avez dit. Allez-y, vous pensez quoi?
Alors, moi, je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où on a un contrat de travail à vie. Aucun. Sinon, alors qu'on me le dise. Hein. Et je ne connais aucun pays au monde où on ne travaille que 35 heures par semaine. Hein. Ça, on n'a pas réussi à exporter ce projet-là. Ça, on n'a pas réussi. Hein. Personne n'a réussi. Hein.
Ben parfois, puis, on travaille moins, même, parce qu'à la mairie de Paris, on travaillerait entre 28 et 32 heures, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que c'est ce qu'on
dit. Je ne vais pas amener de l'eau au moulin de madame.
Non, mais on travaillerait à la mairie de Paris entre 28 et 32 heures. La mairie de Paris, ce sont des fonctionnaires?
Oui, ce sont majoritairement des fonctionnaires.
Évidemment que ce n'est pas convenable si...
Non, mais c'est absolument faux, c'est encore des rumeurs. Il y a 1607 heures à faire dans la fonction publique.
Oui.
Voilà, donc il y a 1607 heures à la mairie de Paris.
Oui, bah écoutez, avec 10 milliards de déficit, hein.
Ça c'est autre chose.
Bah, écoutez, bon. Ça fait partie du package. Hein.
Oui, mais si on augmente les impôts, les salariés sont pas, les citoyens ne sont pas contents.
Hein, si on a moins de personnes, ça coûtera moins cher. Hein, et on réduira le déficit. Hein.
Ah, c'est pas sûr que ce sera moins cher.
Bon, allez-y, Annick. Que voulez-vous dire sur la fonction publique en France? D'abord, est-ce que vous trouvez que vous êtes sans doute comme tout à chacun confronté à la fonction publique? Est-ce que vous trouvez que ça marche bien?
Oh bah, évidemment, non, que ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne de toute façon.
Alors, qu'est-ce qui marche pas bien?
Oh ben écoutez, on le voit tous les jours, hein. La justice, la police, l'éducation nationale, le centre des impôts, on n'en sait rien parce que maintenant on paye, c'est prélevé directement, alors on ne sait pas trop. Mais sinon, il n'y a rien qui fonctionne, monsieur, rien.
Bon. Hein. Bah écoutez, c'est
plutôt clair. Et puis il faut aussi prendre rendez-vous pour faire sa carte d'identité maintenant, hein.
Bah, faut prendre rendez-vous, oui, ça, mais faut pas. Il a toujours. Ça, c'est pas très ennuyeux de prendre. Quand vous allez chez le médecin, vous prenez rendez-vous et chez le coiffeur aussi.
Ah non, mais dans le temps, c'était pas comme ça. On allait directement à la mairie et puis.
C'est pas un argument. Je veux dire, quand vous allez chez le coiffeur, vous prenez rendez-vous.
C'est une contrainte. Non, mais c'est une contrainte.
C'est une contrainte de prendre rendez-vous, Annick.
Eh bien, bien sûr, il faut d'abord savoir si on est là. Parce que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, on sait pas.
Non, mais c'est pas. Écoutez, franchement, là, faut peut-être pas exagérer.
Je vous ai
connu meilleur que ça, Annick. Annick, si vous me permettez. Non, mais je veux bien entendre des arguments. Mais non, l'argument qui est vrai, vous me permettez, et qui est un argument de psychologie. Bon. Oui. Si vous dites à quelqu'un il sera là tout le temps, que vous le vouliez ou non, il a une possibilité d'être peut-être moins performant ou d'être moins en tension ou d'être moins mis en concurrence, etc. C'est sûr que l'âme humaine est ainsi faite que si vous dites à quelqu'un « t'as ton emploi à vie », il est possible qu'il ne fasse pas tous les efforts pour travailler, être plus performant. Je l'entends, vous l'entendez. C'est-à-dire que nous, on est dans des métiers, effectivement, où on n'a pas d'emploi à vie. Alors, bien sûr, on peut considérer que notre situation est plus agréable sur le plan financier. Ce qui est vrai. Pas pour tout le monde, hein, je vous assure, pas pour tout le monde.
Bien sûr.
Bon, pas pour tout le monde. Mais cette notion d'emploi à vie, elle peut être source, non pas de démotivation, mais de dire, bon... De toute façon, ça ne change rien, quoi, que je travaille. Donc là, tu fais vraiment confiance à la personne qui est fonctionnaire. Donc s'il est motivé, s'il prend à cœur son job, s'il a une responsabilité professionnelle grande, ben, y a pas de souci. Mais on sait bien que l'âme humaine, parfois, y a des gens qui... Alors que dans le privé, ben, ces gens-là, ils n'ont pas le choix.
Je ne vous dirais pas que ça n'existe pas.
Dans le privé, ils n'ont pas le choix.
Non, mais d'abord, je le répète, l'emploi à vie n'existe pas dans la fonction publique. Il y a moins de licenciements que dans le privé, parce que par nature... Il n'y a pas de licenciement économique, donc le licenciement, il est lié à une faute. suivant la gravité.
Oui, donc, mais effectivement, une faute, il y en a moins. C'est difficile parfois à évaluer une faute de quelqu'un qui est un peu tiroflant, tu as pas, c'est difficile.
Alors, c'est pour ça que là, on touche à un autre souci.
Bah oui,
on touche au souci du management. C'est comment on peut arriver à faire du management dans la fonction publique. Quelles sont les marges de manœuvre?
Et ben voilà, ben je vous pose la question, parce que vous la posez vous-même.
Je vous le dis, il n'y en a quasiment pas. Mais c'est pas de la responsabilité du manager s'il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand
il
n'y
a
le
pas
ministre,
de management dans la fonction publique.
Il n'y a pas de management dans ce type-là. Pourquoi? Quand le ministre dit il faudrait licencier un petit peu plus, ça sous-entendrait que ce qu'on appelle les managers aujourd'hui ne font pas leur boulot. C'est-à-dire qu'ils n'instruisent pas de procédure et finalement ils ne font rien pour soi-disant un agent qui ne travaillerait pas. C'est faux. C'est faux, simplement, comme je le disais tout à l'heure, tout n'aboutit pas au licenciement, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est
de mettre... Mais vous, par exemple, vous êtes manager? Dans votre activité, vous êtes plutôt, vous, un fonctionnaire haut de gamme, entre guillemets.
Moi, je suis aujourd'hui permanent syndical, donc je ne manage pas.
Mais autrement, ceux qui sont à votre niveau, ils managent.
Bien entendu.
Alors, comment tu manages?
La difficulté du management, c'est d'abord, la première carotte, c'est la carotte budgétaire. Et aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, vous avez 10 agents à manager. Quand vous recevez votre enveloppe de prime, c'est le taux 1 pour tout le monde. C'est-à-dire, vous n'avez aucune marge. Donc, si vous estimez qu'il y en a 1 sur les 10 qui a été un peu plus investi, qui a été un peu plus motivé, ça veut dire que pour lui donner au-delà de 1, un 10, un 20, il faut en baisser un autre.
Je ne suis pas sûr de tout comprendre.
Si vous avez 10 agents qui ont une enveloppe au taux 1, si vous voulez donner un 10 à l'un, il faut mettre 0,90 à un autre.
Et
comment vous voulez faire
pour équilibrer, c'est ça?
Vous voyez que le management, c'est pas facile dans la fonction publique. Non, mais ça veut dire qu'on ne vous donne pas une enveloppe en vous disant faites ce que vous voulez.
Oui.
Il y a le taux 1 qui statutairement.
Mais le taux 1, c'est quoi le taux 1?
Admettons que ce soit 1 000 euros l'année, pour faire un chiffre rond.
Oui.
Tout le monde a 1 000 euros.
Et pourquoi vous dites tout le monde? Si on vous donne une enveloppe, on vous donne 1 000 euros de prime, vous avez.
10 agents, vous avez 10 000 euros.
Bon, voilà. Donc on vous donne 10 000 euros pour vous, pour de prime.
Et il est prévu que l'agent qui fait correctement son travail touche 1 000.
Oui.
Voilà. Bon, et vous dites, vous, sur les 10, j'en ai un qui fait mieux que les autres.
Oui.
Je vais donner 1002.
Oui.
Et vous ne les avez pas, les 200, sauf si vous les piquez aux autres.
Ben oui,
mais si les autres, ils font bien leur boulot, pourquoi vous allez les piquer aux autres s'ils font bien leur boulot?
Parce qu'ils le font moins bien que l'autre.
Alors lequel vous prenez sur les 9 qui restent?
Bon.
Mais vous voyez la difficulté de manager quand vous n'avez pas de marge de manœuvre.
Annick, elle est toujours là.
Et puis je pense qu'Annick, elle aime les fonctionnaires, parce que je suis sûr qu'elle a applaudi les hospitaliers pendant la Covid.
Oui.
Qu'elle a remercié les forces de police pendant les attentats.
Je trouve que les policiers sont formidables.
Non, mais arrêtez, ça c'est du blablabla.
Bon, les policiers sont formidables.
S'ils n'étaient pas là.
On va aller dans le concret un petit peu là. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu dans le concret.
Allez dans le concret.
C'est pas le concret.
Que tous ces fonctionnaires, tous ces agents, ils aient une évaluation annuelle avec des objectifs à réaliser et qu'ils sont réalisés ou pas réalisés.
Voilà.
À partir de là, on leur donne la prime.
Pour les profs, c'est le cas.
On les prend à part objectif.
Vous n'allez pas le croire, mais je suis d'accord avec Annick.
Nous sommes en progrès constant. Mais il n'y a pas d'objectif, par exemple, dans la fonction publique.
Et c'est au manager de les fixer, les objectifs.
Oui,
il y a un entretien.
De manière annuelle.
Bon, tiens, alors il y a un entretien.
Est-ce qu'il y a un entretien?
Il y a un entretien professionnel annuel.
Bon, alors.
D'accord.
Qui existe.
C'est pas compliqué.
Vous voyez qu'on est d'accord. Il existe déjà. Alors il y a une difficulté, si vous voulez. Je comprends pourquoi vous la prenez à chaque mission. Madame est punaise.
Alors, racontez-nous le fonctionnement, parce que ça nous intéresse.
En fait, si vous voulez, il y a un entretien professionnel annuel, avec des objectifs qui sont fixés en début d'année, et on vérifie en fin d'année si les objectifs sont atteints.
D'accord.
Oui.
Sous le gouvernement de François Hollande, tous les mécanismes d'avancement qui étaient liés aux résultats d'entretien professionnel ont été supprimés.
Pourquoi ?
Pour faire des économies. Parce qu'en fait, quand vous aviez quelqu'un qui était, par exemple, qui avait atteint ses objectifs, et encore mieux parfois, eh bien, on pouvait le faire avancer dans sa carrière pour changer d'échelon plus vite. Ils ont supprimé ça, parce que ça coûtait plus cher si on les fait avancer plus vite. Il était plus rapidement inscrit à la promotion, ce qui était logique, puisqu'il atteignait ses objectifs avec plus de capacité.
Donc ça encourageait.
Tout ça, ça a été supprimé sous Hollande.
Et ça, c'était Nicolas Sarkozy qui avait mis en place ça, j'imagine, non?
Oui, c'était mis en place sous Sarkozy.
C'est l'esprit de Nicolas Sarkozy, ce qui ne m'étonne pas. Et ça a été encore une bêtise faite par François Hollande.
Alors, moi, je ne personnaliserai pas, mais ça a été...
Moi, je sais. Non, mais c'est dommage, parce que...
Mais c'est une bêtise budgétaire.
Oui, mais ça, vous le regrettez, manifestement, parce que il y avait un peu de compétition, d'une certaine manière, et c'est jamais mauvais signe.
Il y avait surtout des éléments de comparaison objectifs qui permettaient dans un cadre collectif d'évaluer les agents de manière différente.
On marque la pause et on revient avec Annick, parce que Annick, d'abord, elle nous fait rire. Le déjeuner est prêt, Annick?
Écoutez, je me suis accordé un petit break là, mais ça va bien, ça va se faire, oui.
Bon, je remercie M. Christian Groslier, qui est secrétaire général FO Fonction Publique. Il réagissait au propos de Stanislas Guérini. Le statut n'a jamais expliqué qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail, disait-il. Et c'est vrai qu'il remet un peu en cause le statut. C'est vrai que pour, vous nous avez expliqué notamment les systèmes de primes, on pourrait imaginer un système où les primes soient variables, pas d'augmentation de l'échelon systématique, et ce qui permettrait, on augmente la masse salariale fixe. Autrement, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation de l'échelon systématique, j'imagine on augmente la masse salariale fixe, et une fois l'échelon obtenu, la personne lève le pied, quoi. C'est ça que ça veut dire, j'imagine.
C'est le principe de la carrière, c'est-à-dire que effectivement tous les 2-3 ans, ça se voyait. Mais c'est le principe de la carrière. Donc tous les 2-3 ans,
je voulais rien dire, mais ça s'est vu.
Je suis pas sûr. Il y a quelqu'un qui veut me proposer cette solution, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Bon, en tout cas, ce qu'on retiendra de cette séquence, c'est que vous avez un ministre à 4 mois des JO qui veut mettre un pied dans la fourmilière. Bon,
exactement.
Bah, on va voir.
Et qui doit réviser quand même ses fondamentaux sur le statut.
Exactement. Ben, on vous remercie beaucoup, monsieur. Groslier,
merci à vous.
Vraiment,
merci.
Filez, je sais que vous êtes attendu sur une autre télévision parce que c'est un sujet évidemment qui fait réagir. Il est 12h22.
11h, 13h.
Pascal Pro sur Europe 1.
Le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou. Et j'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu les
Corrida, bien sûr, de Yanis Eziadi, qui a écrit Minotaur, voyage au cœur de la corrida. Yanis Eziadi, bonjour et merci d'être avec nous. C'est un sujet qui fait toujours et qui divise la corrida. Ce serait d'ailleurs intéressant de vous mettre, et j'imagine qu'on aura tout à l'heure un anti-corrida qui pourra vous interroger.
Oui,
la
oui.
Passion de la corrida, ma première corrida, écrivez-vous, c'était en 2020 au mois d'août, et c'est une passion finalement assez récente. Comment vous êtes entré dans l'arène, si j'ose dire?
Eh ben, ça a commencé par un dessin d'Henri de Monterland dans l'album de la Pléiade, qui dessinait donc le grand matador Belmonte, toréan nu à l'entraînement. On voyait ce taureau noir massif plongé presque à l'intérieur du corps du torero, puisqu'il le frôle, le taureau frôle vraiment.
Mais il était nu?
Oui, parce qu'on dit que Belmonte t'aurait nu à l'entraînement. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, Monterland l'avait beaucoup fréquenté. Mmh. Et voilà. Et j'ai été saisi par la beauté et la grâce qui jaillissait de ce dessin. Et j'ai commencé à lire des livres sur la corrida, les bestiaires de Monterland, les livres de Jean Cocteau, parce qu'évidemment, il y a toute une littérature, une grande littérature taurine. Mmh. Et je me suis rendu pour la première fois dans les arènes de Béziers, donc en 2020. Et j'ai eu un choc, et toute la beauté que je cherchais au théâtre ou au cinéma.
Oui, parce que vous êtes comédien, formé par Galabru, notamment, et vous avez joué avec Michel Faux, Anne Delbé et Julie Depardieu. Et puis, votre nom, disons-le, a été dans l'actualité il y a quelques semaines, puisque vous étiez à l'origine de la fameuse tribune écrite pour défendre Gérard Depardieu.
Oui.
Bon, et qui vous a valu quelque inimitié.
Ah ben oui, mais je le savais en l'écrivant, je le savais.
Bon, et aujourd'hui, peut-être ce milieu de comédien vous regarde du coin de l'œil.
Une partie, puisqu'il faut quand même savoir que dans les coulisses, une grande partie des acteurs et des actrices sont d'accord avec ce que j'ai écrit, mais qu'ils ne peuvent pas forcément le dire, puisqu'ils subissent évidemment des pressions. Voilà. Mais ce n'est peut-être pas tant la censure qui est dangereuse que l'autocensure, parce que les gens prennent beaucoup trop de précautions, à mon avis.
Bah, ils prennent des précautions parce qu'ils ont peur pour eux. C'est-à-dire qu'après, par exemple, Annie Dupéret a pris position contre Judith Godrèche, elle a été virée, contre Judith Godrèche. Elle a pris ses distances avec ce que disait Judith Godrèche, elle a mis quelques... C'était bien léger, hein, ce qu'elle disait, en plus, Annie Dupéret, et puis le lendemain, elle était exclue
de son association
dans laquelle elle travaille depuis 40 ans.
Mais sur son association, à la limite, on s'en fiche, elle est actrice, oui. Et le théâtre est plein.
Oui.
Ça a fait un gros coup de pub. Non, mais quand même, il faut pas...
En plus, alors la pièce s'est arrêtée avec Pascal Légitimus et Corinne Touzet et Francis Perrin, mais cette pièce est absolument formidable, et qui était au Théâtre de Paris il y a quelques jours et dont vous allez me rappeler le nom, monsieur...
Moi ? Oui. Alors, laissez-moi quelques instants.
Dans une seconde. Bon, revenons à la corrida. Revenons à la corrida. Vous dites, je dois témoigner aussi de l'absence de haine. Ce n'est pas par haine que le torero tue la bête, c'est par amour.
C'est compliqué à comprendre, forcément, pour avoir communié avec elle pendant un quart d'heure. La seule issue possible à cette étreinte est la mort. Bon, forcément, c'est très intellectualisé et c'est de la littérature, mais les uns et les autres aujourd'hui, je pense que ces positions sont plus difficilement audibles dans la société qu'il y a 30 ou 40 ans, parce que la souffrance animale est au cœur, bien souvent, de notre société.
Mais peut-être aussi parce que le niveau a baissé, parce que, si vous voulez, c'est pas... Non, mais c'est pas... Mais non,
c'est un peu prétentieux non, de dire ça, c'est-à-dire que vous comprenez pas la beauté de ça. Non, c'est que la souffrance animale, mais, on n'en parlait pas de la même manière il y a 40 ans.
Moi, je peux vous dire une chose, c'est que la souffrance animale, je ne m'en étais jamais vraiment préoccupé avant la corrida. C'est-à-dire que la corrida m'a fait comprendre ce qu'était le respect de l'animal. C'est-à-dire... Tirer des choses d'un animal, oui, à condition de ne contrarier sa nature en rien. Et à la corrida, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que
c'est une mise à mort.
Mais le taureau, les charges qu'il donne et dont le matador se sert pour créer de l'art et de la beauté, ces charges, le taureau les donne naturellement. C'est dans sa nature. Si vous allez dans les élevages, et je raconte, il y a des pages entières sur les élevages de taureaux, les taureaux s'entretuent entre eux dans des combats qui durent plusieurs heures et qui sont d'une violence absolument 100 fois supérieure à celle qu'il vit dans l'arène.
Mais il y a une mise à mort là qui est programmée.
Oui,
entre
mais à l'abattoir, il y a une mise à mort
heures.
Qui est programmée et l'animal ne peut pas se défendre. L'animal est en train de subir, tandis que pendant une corrida, l'animal ne subit pas. Il est l'acteur d'un combat.
On va marquer une pause. Je pensais que la sexualité entre le taureau et le torero, décrite par les écrivains, n'était que littérature, mais il faut aller dans les arènes pour se rendre compte qu'il s'agit bien de quelque chose de cet ordre-là.
Bah, il y a quelque chose de sensuel et d'érotique, incontestablement.
Bon, sur la piste des deux protagonistes parades, ce défi du regard, se heurtent violemment, puis se frôlent sensuellement, transpirent, gémissent, reprennent leur souffle, la bête bave et parfois couve l'homme de sa salive et de son sang. C'est un couple qui se cherche, qui se forme, qui se désire violemment jusque dans la mort. Alors, je peux dire la même chose de deux boxeurs, de deux karatékas, de deux sportifs qui jouent l'un contre l'autre.
Non, parce que dans la boxe, il n'y a pas cette beauté et cette grâce et cette sensualité. C'est du pur combat. Ce que n'est pas la corrida. La corrida, ce n'est pas un combat.
La pause, monsieur Guénèque, que se passe-t-il ?
Le duplex.
C'est la pièce de théâtre.
Ah oui, c'est le duplex. Voilà. Très drôle, le duplex. Vraiment, c'est une pièce très drôle. Temps, ça s'est terminé là, le 31 mars.
Vous êtes allé, vous ? Oui,
j'ai vu ça. C'est une pièce très rigolote, très drôle. On est allé voir Adi Dupéret après, d'ailleurs, et on lui a dit qu'elle vienne nous parler dans les auditeurs. Qu'elle vienne.
Vous avez des beaux week-ends, vous, hein? Comment? Des belles sorties, des beaux week-ends, hein, vous disons. Ouais,
c'est VIP,
on ne s'embête pas.
Oui, on rencontre les stars en coulisses, en backstage.
Qu'est-ce que vous faites, vous, le week-end?
Ah ben moi, je ne rencontre pas Annie Dupéret. Moi, je suis dans mes, dans mes bars modestes.
Europe 1, Pascal Pro.
Alors, cette musique, Pascal, de Jean-Michel Jarre, Oxygène, pour rendre un petit hommage à un animateur emblématique des années 80-90 sur Europe 1, puisque Jean-Loup Lafont, qui nous a quittés en 2015, était né un 10 avril 1940, à Guingamp.
Et je l'ai écouté, comme bon nombre de ceux qui nous écoutent sans doute, en fin d'après-midi. Il faisait à l'époque le hit parade, et puis on peut avoir une pensée pour Christine Haas, que je connais bien, que nous connaissons bien également, que nous avons rencontré dans une autre maison et qui fait aujourd'hui l'astrologie dans cette autre maison et qui était l'épouse de Jean-Loup Lafont, à qui nous pensons. 12h35.
11h, 13h.
Pascal Pro sur Europe 1.
Donc on était dans cet acte d'amour et avant peut-être de parler avec un auditeur ou une auditrice, dans la tauromachie, la race du taureau, brave et respectée, adorée, vénérée par le public, les toreros et les éleveurs, écrivez-vous.
Et oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que tout ce que j'ai écrit dans le livre se passe en France, parce qu'il faut bien avoir conscience que dans toute une partie du sud de la France, il y a un véritable culte de cet animal mystérieux, adoré, vénéré et évidemment parfois tué en public dans une arène. Je comprends que ça paraisse bizarre, qu'il y a dans les écoles des enfants qui jouent au taureau dans la cour de récréation, qu'il y a des statues de taureaux sur les ronds-points et qu'il y a des statues de toreros morts qui sont les martyrs de... Voilà. Donc oui, il y a tout un peuple du taureau en France.
Bon, moi je suis un peu ennuyé, évidemment, parce que je suis très attaché aux traditions, à la culture, bien évidemment, et je ne veux pas me placer dans le camp des anti-corridas bêtes et méchants, si j'ose dire, mais en même temps, j'entends effectivement, aujourd'hui, la souffrance animale mise en avant, et je n'arrive pas à avoir, sur ce sujet-là, une position définitive. On est avec Didier, qui est président du comité...
D'un anti-corrida. Comité
anti-corrida à Nîmes. Bonjour, bonjour cher Didier. C'est vrai que moi je suis sensible aux arguments d'abord de la beauté peut-être, aux arguments également de la culture, aux arguments de la tradition. Ce sont des choses auxquelles on peut effectivement penser, mais je vous donne la parole peut-être pour réagir sur ce que nous venons de dire.
Oui, bonjour Pascal. Quand j'entends, il faudrait qu'on arrête avec le mot peuple du taureau, je suis né à Nîmes, je suis à l'école à Nîmes, j'habite encore à Nîmes, et dans les cours de récréation, on jouait aux cow-boys et aux indiens. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un jouer à faire le taureau et plutôt le matador. Et en plus, quand j'entends parler de respect, quand j'entends parler d'amour, je me pose une question, là, je crois que c'est M. Yanis qui est en face de vous. Si par respect et par amour on tue, alors je me fais des soucis pour sa famille. Hein. Il faut arrêter avec ça. On n'aime pas. Parce qu'il faut dire que la corrida, monsieur, c'est le symbole de la lâcheté, de la perversion. Il faut être lâche, il faut être pervers pour payer un individu, le voir torturé pendant des minutes et des minutes, un mammifère qui n'a rien fait à personne. C'est de la lâcheté. Et je le répète, ce sont des lâches et des pervers. Je n'en démords pas. La corrida, c'est le symbole de la domination de l'homme sur les autres espèces. C'est la corrida, le peuple du taureau. Je ne suis pas le peuple du taureau. Je ne suis rien. Je suis un individu. Et qu'on arrête avec les gens du Sud qui aiment tous la corrida. En France, il y a 80% de personnes qui ne l'aiment pas, la corrida. Or qu'on arrête de parler de nous, c'est pas du taureau. C'est une insulte pour moi.
Bon, alors, monsieur, vous le traitez de pervers, donc voilà, il va vous répondre.
Vous voyez la différence entre monsieur et moi, c'est que moi, je comprends totalement que des gens n'aiment pas la corrida, même qu'ils trouvent ça violent et problématique, mais que je n'insulte pas les gens. Monsieur nous insulte de lâche et de pervers. Enfin... Si vous voulez, l'argument, en plus de la barbarie de tout ça, non, quand 20 000 personnes sur un seul mouvement de cap de, par exemple, José Tomás, 20 000 personnes vont pleurer ensemble à ce mouvement de cap, c'est le contraire absolu de la barbarie. Non, ce n'est pas ce que les gens viennent chercher. Après, le débat, de toute façon, les anti-corridas... les anti-corridas continueront de dire que le taureau souffre, les gens qui aiment la corrida
Ils souffrent.
Mais non.
Alors, ils souffrent. Mais, objectivement, ils souffrent, le corrida. Allez, le taureau, il souffre. Bon, Par exemple, évidemment, tu lui mets une épée dans le corps, il souffre.
Dans mon livre, je fais intervenir Alain Finkielkraut. J'en rapporte une grande discussion avec lui. Alain Finkielkraut est très sensible à la souffrance animale. Il a décidé d'aller voir quand même une corrida pour voir, mais il craignait ses réactions. Et il a été obligé de constater, et il le raconte dans le livre, que ce n'est pas au spectacle de la souffrance qu'il a assisté, que sinon il serait parti. Voilà.
Bon, d'ailleurs, que dit-il dans votre livre, Alain Finkielkraut ? Je me mets spontanément à la place de la bête, me dit-il. Quand bien même j'ai peur pour le matador, je souffre avec le taureau. Je ne voulais donc pas m'infliger la vision de sa mise à mort. Je m'attendais à être choqué et révulsé par ce spectacle, mais malgré les préventions qui étaient les miennes, j'ai été ébloui par la prestation de José Tomás, je l'avoue. J'ai été subjugué par la beauté de la chorégraphie et par l'élégance de ce à quoi j'ai assisté. J'ai continué à souffrir avec les taureaux, mais je n'ai pas boudé mon admiration pour autant. Oui, Alain Finkielkraut admire les matadors, etc. Mais comme les positions sont irréconciliables...
Pascal, vous connaissez le Kovac, c'est vétérinaire contre la corrida. Alain Finkielkraut, il dit quoi, lui ? C'est un philosophe, je crois, c'est pas un vétérinaire. Or, qu'il admire ce pseudo-spectacle à son aise, mais qu'il arrête de dire que le taureau ne souffre pas, l'éthologie a fait des progrès. Un mammifère, ils sont conscients d'eux-mêmes, ils souffrent. Alors qu'on arrête, et en plus, nous sommes au 21e siècle, pourquoi on continue à utiliser des animaux pour se faire plaisir, pour faire plaisir à quelques personnes? et je persiste, c'est de la perversité, voir souffrir une bête. Je vais dans des arènes encore pour filmer, pour faire voir ces horreurs au public. Quand les taureaux sont, comme ils disent, mal tués, que les poumons sont traversés, qui vomissent du sang, qui font le tour contre le ensuite des barrières là, qui vomissent du sang, c'est de l'art, ça, c'est honteux. Honteux, il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas, au XXIe siècle, aller voir ça. Il faut que la corrida, le gouvernement, prenne ses dispositions. Il faut arrêter.
Et d'ailleurs, la corrida n'est pas interdite en France. Elle est interdite dans des pays en Europe, monsieur Didier ?
Ben, la corrida est autorisée en France, en Espagne et au Portugal. Au Portugal, la mise à mort ne se fait pas en public.
Oui, la mise à mort ne se fait pas en public.
Et il est tué en coulisses d'une balle.
Mais par exemple, vous, si la mise à mort ne se faisait pas en public, ça changerait votre rapport à la corrida, Didier ?
Non, c'est pareil. Non.
Non, ça changerait pas, c'est pas quelque chose que pour vous, c'est la même chose.
Est-ce que monsieur mange de la viande ?
Et alors... Non, je suis végan, monsieur. Voilà.
Voilà. Donc, monsieur est végan. Il faut aussi le dire. Monsieur ne veut pas qu'on tue les animaux.
Mais non, mais
voilà.
Je me rappelle plus autrement. Yanis, là. qu'est-ce que ça peut faire que je... Vous pouvez m'appeler Didier. Hein. Qu'est-ce que ça peut faire que je mange pas de la viande hein.
Mais moi, non, c'est pour.
Non, mais ça dessine une personnalité.
Aux auditeurs aussi que ce monsieur qui se bat contre la corrida et qui vous raconte une image de la corrida que moi je n'ai absolument pas vu, alors que je ne connaissais rien à la corrida, je suis allé découvrir pour voir ce que c'était, je n'ai pas vu ce que monsieur raconte, et ce que ce monsieur vous raconte, ce monsieur est vegan et ne souhaite pas qu'on tue les animaux, même pour les manger. Voilà, je tiens juste à rappeler ça.
Yanis, vous voulez des images ? Je filme dans des arènes. Vous voulez des images ? Le taureau à Saint-Gilles, là, qui a été mal tué, comme vous dites, parce que bien sûr, mal tué, je vois pas. Il vomit du sang, il fait le tour, là. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est pas le sang. C'est que les gens dans les arènes se taisent. Et quand le taureau tombe, ils applaudissent et tout, là. C'est une honte. Une honte à tous ces gens qui applaudissent devant la torture, la mort.
Moi, j'ai vu le contraire de ce que monsieur raconte dans les arènes. C'est tout ce que je peux dire. Et j'encourage les gens à aller voir d'eux-mêmes.
Mais de toute façon, je vous dis, c'est deux positions qui sont absolument irréconciliables.
C'est impossible.
Et je n'arrive pas moi-même. En fait, je vais vous dire, quand j'entends Didier, je suis convaincu par Didier. Et quand je vous entends, vous, je peux entendre aussi ce que vous dites. Donc, je suis dans cette disposition-là. Monsieur Olivier Guénèque, je pense en tout cas qu'aujourd'hui, ça va être compliqué ces prochaines années. Il y a une demande très forte, et notamment des jeunes gens qui n'acceptent, de la même manière qu'ils n'acceptent plus les lions dans les cirques, que les animaux sauvages soient rendus à leur liberté. Forcément, c'est un mouvement qui se met en place.
Mais l'élevage, faut rappeler que l'élevage du taureau de combat est un élevage qui lui garantit, garantit aux vaches et aux veaux une vie de quasi-liberté. Animal n'a. Non, mais oui. il faut quand même le rappeler.
Mais Yanis, arrêtez de dire qu'un taureau vit heureux dans son champ 5 ans. C'est faux, certains vivent 5 ans.
Mais non, mais il n'y a même pas 5% de l'élevage qui part aux arènes. C'est 5% de taureaux, même pas 5% qui partent.
Et ils vont où après ces taureaux ?
Il y a l'abattoir.
Il y en a qui sont abattus parfois pour la viande, mais les vaches meurent de leur belle mort. Elles meurent de vieillesse, les vaches, dans les élevages.
Olivier, c'est terminé, je pense, Olivier Guénèque, hein, c'est terminé.
Voilà, quelques messages avant le grand débrief de Laurent Tessier.
Oui,
allez, c'est parti. On a Pierre, sur nos réseaux sociaux, qui nous dit « Tuer pour le plaisir est une chose que je ne pourrais jamais comprendre », voilà, comme Didier. Et Colette également nous écrit « La corrida suscite des débats virulents entre défenseurs et opposants. Personnellement, je n'aime pas les corridas, mais c'est difficile d'interdire une tradition. Pour certaines régions, c'est le même débat que pour la chasse et les cirques. »
Yanis Seziadi, je renvoie à son livre Minotaure, voyage au cœur de la corrida. C'est un très beau livre qui est très bien édité par chez Fayard. Et je vous invite à lire cela. D'abord, c'est extrêmement bien écrit. Et c'est vrai que Yanis est un petit mot,
merci. Je vous remercie de m'inviter parce que, évidemment, la promotion est difficile, notamment à cause de la Tribune de Pardieu et le sujet de la corrida. Donc, ça fait beaucoup. Et les libraires eux-mêmes boycottent ce livre, puisque à Paris, quand on cherche sur quand je regarde sur le site Paris Librairie, sur lequel je regarde toujours pour voir la disponibilité des livres, il n'est en vente que dans 7 librairies. Et même dans les librairies dans lesquelles il est souvent caché, vraiment. Donc, voilà, je vous remercie quand même.
Non, mais je vous en prie, vous êtes venu aussi sur CNews l'autre jour, donc c'est intéressant. Et puis, Moi, c'est toujours pareil. Nous, on a envie, on donne la parole à tout le monde, voilà. Bien évidemment. Et c'est intéressant de vous écouter, d'avoir entendu les arguments.
Europe 1, le grand débrief de Pascal Praud et vous.
Le grand débrief de Laurent Tessier à 12h51.
Hello à tous. Non, c'est pas lundi. Non, c'est pas mardi, car aujourd'hui, c'est...
Wednesday.
Oh, c'est bon. Et oui, c'est mercredi. Le mercredi, attention, ça...
On va faire un jingle, ça bascule.
Ah, vous pensez que c'est une bonne idée?
Je pense qu'on peut imposer ce petit slogan dans la France professionnelle.
On a imposé c'est lundi, on peut imposer la bascule. Hein,
exactement.
Et une chanson pour fêter le jour de la bascule. Dans deux jours, on pourra crier... C'est le week-end. Un qui n'aura sans doute pas de week-end, c'est le ministre Stanislas Guérini qui a vraiment le sens du timing dans ses déclarations.
Le ministre Stanislas Guérini veut qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique. Je pense qu'il n'y avait que ça qui nous manquait, si vous voulez, pour mettre... Avant les JO, je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
Le sens du timing, Stanislas Guérini. Bon, une personne qui n'attend pas le week-end avec impatience, c'est notre programmateur Florian Carassou, Maillan, qui vit des moments difficiles et c'est un ami proche. Je le soutiens. Mon Florian qui enchaîne les bonnes nouvelles, entre guillemets. Pascal, vous savez le lui rappeler.
Il a perdu son scooter, et il a perdu sa femme et il a perdu son appartement.
Oh, champion Florian, la totale. Bon, comment en est-il arrivé là? À qui la faute? Il est vrai que la vie de Florian est publique. Aucun secret pour vous, par exemple, il y a 4 mois.
Florian Carassou-Maillan se sent libre d'aimer sur son lieu de travail.
Vilain, Bobouk.
Pardon.
Il va dormir chez des filles.
Et oui, il en teste tous les soirs.
Il teste tous les arrondissements.
Vous les femmes.
Voilà. Après, vous vous étonnez, le pauvre Florian, mais c'est de votre faute. Ah, Florian, une vie de star, une vie de chanteur. Car oui, n'hésite pas à se faire passer pour l'un des membres du groupe Kyo.
Quand il est sorti, alors c'est ce qu'il nous dit, hein, il nous entend, quand il est sorti, il a mis sa capuche. Et tous les fans lui sont tombés dessus parce qu'ils ont cru que c'était...
Il ressemble à Ben.
Mais il ressemble.
Exactement. Après, je suis même rentré dans une voiture et les gens poussaient la voiture pour qu'on puisse sortir.
C'est
génial.
C'est fou quand même, cette affaire.
Mais quelle vie, notre ami Florian. Mais attendez, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de ma voisine de bureau, les Raymond et Huguette de l'émission. Et pauvre Gégé, elle a connu un faux départ à 11h. Tout a commencé par le bonjour habituel à tous les membres de l'équipe de Pascal.
Notre ami Laurent Tessier.
Bonjour à tous.
Qui est à la rédaction en chef de cette émission. Je salue Fabrice Lafitte.
Oui, c'est moi. Bonjour à tous.
Bonjour. Florian Carassou-Maillan, on l'a évidemment salué. Puis vous avez reconnu la voix de Olivier Guénèque.
Mais c'est tout, il ne manque pas quelqu'un.
La voix de Olivier Guénèque.
Et moi, on ne me dit pas bonjour.
Ah oh, oui. Oh là là là. C'est magnifique.
Je
vous ai
pas
fait. Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Pardonnez-moi, mais comment grave. Est-ce possible?
Je sais pas, ça vous arrive parfois.
Gégé. Bon, heureusement, Monsieur Boubou qui est là et vient à la rescousse de Dame Gégé.
Vous êtes un petit peu son bras droit, Géraldine. Prenez-le comme ça.
Mais voilà, oui. Elle sert beaucoup de son bras gauche. Non.
Évidemment, et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé.
11h, 13h.
Pascal Praud sur Europe 1.
Bonne nuit sur Europe 1. On se retrouve à 11h pour débattre ensemble de l'actualité.
Pour échanger avec Pascal Praud, il vous suffira de composer le numéro du standard Europe 1, 01 80 20 39 21. Pascal Praud qui recevra aujourd'hui, jeudi, le comédien, écrivain et réalisateur Patrick Chesnais pour parler notamment de la pièce de théâtre Secret.S. Voilà. Allez, la musique, vous le savez, a toute sa place sur Europe 1, même la nuit. Axel Red, tout de suite avec Restez femme. Et puis on retrouvera juste après une femme d'exception, Valérie Darmon, dans la libre antenne en nouvelle diffusion. Excellente nuit à tous.
Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Je porterai plus que mes bas noirs. Je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais ça.